Eh bien, chers amis, nous allons ensemble nous lever à notre place pour prier. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous parlerons sur la prière des hommes de la Bible pour apprendre à prier. Je vous invite à rentrer en vous-même. C'est une expression de la Bible, rentrer en soi-même. C'est un peu sombre en nous, hein. C'est pas toujours bien rangé, il y a de la poussière. Quelques toiles d'araignée, quelques monstres, mais rentrons en nous-mêmes et prions le Seigneur. Quand dans la nuit je cherche un refuge, tu es là, Seigneur. Quand je t'invoque, tu es près de moi. Et cet après-midi, nous voulons t'invoquer, t'appeler, comme disent les prophètes, les psaumes, crier à toi. Avec notre cœur, car nous avons besoin que tu nous prennes par la main pour traverser le torrent qui déborde. Seul toi, tu peux le faire. Exauce-nous pour nos santé, pour les péchés qui nous submergent, pour les inquiétudes qui nous effraient. Aide-nous, reste avec nous. Merci Seigneur. Amen. Chers amis, je vous invite à vous asseoir et nous allons lire ensemble dans l'Évangile de Luc, chapitre 18, justement une histoire de Jésus sur la prière. Il faut en tirer des leçons. Dieu ne parle pas pour rien dire. Je vais faire cette lecture, Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, c'est-à-dire un groupe de juifs qui observaient les choses à la lettre, tellement à la lettre que tous ceux qui ne faisaient pas comme eux étaient exclus. Un pharisien. Et l'autre, publicain, c'est-à-dire un percepteur d'impôts qui, à l'époque, même aujourd'hui, n'était pas très très bien vu. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, ce qui veut dire pardonné, en accord avec Dieu, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Voici deux hommes en prière dans le temple. Là, nous apprenons des leçons. Si vous pratiquez la prière, et certainement que de temps en temps, vous dites « Seigneur, sauve-moi, au secours, je ne sais plus où j'en suis », c'est la prière. Eh bien, sachez que prier, ce n'est pas seulement dire des mots. Beaucoup de mots. Paroles, kilomètres. La prière, c'est d'abord être vrai, sincère, vrai comme Dieu nous demande d'être vrai, pas parfait, mais dire les choses selon la vérité. Et cet homme-là, le pharisien, n'était pas tout à fait comme ça. « Je te remercie, Seigneur, parce que je ne suis pas comme les autres. » Commence bien, hein. C'est-à-dire, je prends de la distance par rapport aux autres. Je m'éloigne du prochain. En fait, je n'ai pas de prochain. Je suis seul. Seul bien. Seul bon. Seul comme tu aimes. Il ne demande rien, le pharisien. Il se compare seulement. Et il juge les autres comme ce publicain. Très humiliant, ce publicain. Il n'a besoin de personne. Et il cite tous ses mérites, toute sa légion d'honneur, tous ses diplômes, tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Il a oublié quelque chose. Il a cité certains péchés, moi je ne les ai pas, moi je ne les ai pas. Il n'a pas cité le mensonge, il n'a pas cité l'orgueil, il n'a pas cité la colère, il n'a pas cité le mépris. Et c'est exactement ce qu'il fait ce jour-là. Moi, je ne suis pas comme les autres. Il y a de la colère, il y a du mépris, il y a de l'orgueil. Le publicain, percepteur d'impôts, mal estimé, mal aimé, toujours soupçonné de quelque chose de grave, lui, par contre, il prie parce qu'il veut être en paix avec Dieu. Soit apaisé. Ça veut dire, j'ai fait des choses qui te mettent en colère. Sois apaisé. Ce qui veut dire, pardonne-moi. On ne peut pas vivre sans pardon. Dans un couple, dans une famille, dans une société, dans une église, on a besoin du pardon qui est le raccommodage, le recollage des vases cassés. Il demande le pardon sans lequel on ne peut pas vivre. Il demande être en paix avec Dieu et la paix de Dieu. Eh bien, de ces deux prières qui sont montées du même endroit par deux hommes qui sont quasiment comme des frères, une est allée dans le cœur de Dieu et il a exaucé. Une est restée sur terre. Il n'y a pas eu de résultat. Donc, il nous faut apprendre à prier. La prière, c'est le chemin entre Dieu et nous. C'est par la prière que Jésus descend vers nous, c'est par la prière que nous montons vers Jésus. C'est le trait d'union, le pont entre le haut et le bas, le royaume d'en haut et notre vie. Et nous avons besoin de prier. Ce n'est pas un luxe du pasteur ou de certaines églises. Parce qu'on a besoin de soutien, de réconfort, de pardon, de faire monter nos enfants sous le regard de Dieu. Je vais vous citer rapidement seulement. Je vais vous citer quelques petites prières de la Bible afin de vous dire... Prenez modèle, voilà. Prenez exemple. Et dans ces petites prières, je vais vous raconter un tout petit peu l'histoire autour, peut-être que vous allez dire, ça pourrait être moi. Ça pourrait être moi. Deux disciples de Jésus s'en vont dans le temps de Pâques. Jésus a été crucifié, il est ressuscité. Ils s'en vont vers un petit village nommé Emmaüs. Ils sont en deuil, ils n'ont pas compris la mort de Jésus, ils sont tristes, ils sont découragés, ils sont désemparés. Et voilà qu'un inconnu, ils n'ont jamais vu, mais sympathique, il s'approche d'eux et l'inconnu parle et leur explique la mort, la résurrection de Jésus. Ça réchauffe leur cœur. L'inconnu connaît leurs pensées. L'inconnu le révèle même ce qu'ils ont dans le cœur. Pourquoi êtes-vous si triste en marchant? Et pendant que l'inconnu leur parle, il y a une lumière en eux. Il y a une petite lueur qui s'allume et qui commence à brûler, à réchauffer. Et puis l'inconnu, il veut partir, il faut qu'il aille plus loin. Eux, ils arrêtent là, mais lui, son bus ne descend pas là. Ils veulent le retenir, parce qu'ils ne voudraient pas que la lumière qu'il a mise dans leur cœur disparaisse. C'est trop doux, c'est trop beau, c'est trop lumineux. Ils ne voudraient pas que ça disparaisse. Reste avec nous. Voici la prière. Reste avec nous, Seigneur, car le jour décline. Reste avec nous, le jour décline. Vous savez, Jésus marche aussi à vos côtés, et vous ne le savez pas, car Jésus n'est pas là-haut à vous attendre. Jésus est avec nous sur la terre, il nous cherche. Et certainement que dans votre existence, vous avez entendu sa voix à l'intérieur de vous, aujourd'hui. Si vous avez lu un peu l'Évangile, ou peut-être dans des moments difficiles, vous avez entendu en vous une voix d'encouragement, une voix de consolation, comme une voix de soutien. Alors les gens, ils ne comprennent pas, comme les disciples d'Emmaüs, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Alors ils ont appelé ça le moral. J'ai retrouvé le moral. Ils appellent ça la conscience. Mais le Christ nous appelle, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il nous accompagne, dit la Bible, même au jour d'ignorance. Même au jour d'ignorance, il nous cherche. N'attend pas comme un juge, un président attend dans son grand bureau. Il est à la recherche des êtres humains dans les lieux de désert, de poubelle, de désolation, de chagrin. Il faut lui dire le cri de ces deux disciples pèlerins, là, les pèlerins d'Emmaüs, on les appelle. Reste avec nous. Il faut lui lancer ce cri, et ce cri suffit. C'est une prière. Ce cri suffit pour que le Seigneur entre dans la maison. Et la maison, ce n'est pas la maison où l'on habite, ce n'est pas la caravane où l'on habite. Il y a des tziganes qui n'ont pas de maison, ils ont une caravane. La maison, c'est beaucoup plus fort, c'est le cœur, l'intérieur. Et votre maison sera habitée. Elle aura une présence, elle aura quelqu'un qui vous écoute, qui vous parle, qui partage, qui vous soutient, qui vous relève, qui vous encourage. Reste avec nous. Voilà la prière. Et là, vous saurez que le Seigneur était avec vous et vous ne le saviez pas. C'est un homme qui a dit ça dans la Bible. Il était en fugue, il avait mal agi avec sa famille, avec son frère, il avait trompé son père. Pas terrible. Jacob. Et quand Jacob a quitté sa maison, il est parti dans le désert, et voilà que Dieu lui a parlé, et il a dit, « Ah, le Seigneur était là, et je ne le savais pas. Mais le Seigneur te suit partout, Jacob. Le Seigneur vous suit partout, parce qu'il vous aime. Et quand on aime et qu'on s'appelle Dieu, on est capable d'être présent partout. » Quand la marche devient difficile dans la vie, nous regardons souvent aux obstacles et nous oublions. La mémoire, parfois, elle a besoin d'être stimulée. Nous oublions que Jésus nous a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Nous, on regarde l'obstacle et on oublie qu'il est là. Il nous parle. « Pourquoi avez-vous peur ? Qui cherches-tu ? » Il est là et il attend qu'on lui dise « Reste ». Avec nous. Viens dans mon cœur. Faites cette prière. Le Seigneur répondra. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui promet avec des paroles en l'air. C'est quelqu'un de sûr. Encore quelqu'un qui a fait une prière un jour, surprenante, c'est celle-ci. Es-tu celui qui doit venir? ou devons-nous en attendre un autre ? Il y avait un jour une dame qui avait toujours des ennuis avec sa salle de bain ou ses lavabos, des ennuis de plomberie. Et puis elle appelait son plombier qui venait toujours avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Et puis, comme son plombier était chrétien, elle a envoyé une petite lettre à son plombier et elle a mis Luc 7, 20. Alors le plombier, il a compris que c'était l'évangile, il a cherché dans l'évangile et puis il a lu dans l'évangile « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre plombier ?» Un autre plombier. Qui a dit « Es-tu celui qui doit venir ?» Jean-Baptiste, quand il a été jeté en prison par la malfaisance d'Hérode. Et Jean-Baptiste, dans sa prison, c'était quand même quelqu'un de formidable, Jean-Baptiste. Il apprend que Jésus, son ami, s'occupe des malades, des misérables, des gens de mauvaise vie, des pouilleux, des gens dont la vie n'est pas toujours extraordinaire, s'occupe des autres, et lui, son ami, il est en prison. Il ne va même pas le visiter. Et il ne le sort pas de prison. Lui qui peut tout faire. Il ne comprend pas Jean-Baptiste. Alors il a un doute dans son cœur. Il a un doute dans son cœur. Jean-Baptiste est un homme très intelligent. Il ne va pas troubler toute la galerie, il ne va pas troubler tous ses amis. Il va simplement envoyer deux de ses amis avec une petite lettre dans secret pour dire à Jésus « Es-tu celui qui doit venir, oui ou non ? Ou est-ce qu'il faut chercher ailleurs ?» C'est quand même une prière douloureuse, une prière de doute. Le doute, c'est un poison qui rend aveugle, qui finit par nous enlever la vue sur les choses à venir, les choses d'en haut, sur les autres. Le doute, c'est un poison qui nous éloigne de Dieu, qui nous inquiète, qui peut nous rendre dépressifs, négatifs. On voit tout en noir, on n'a plus confiance, on ne sait plus où l'on est, où l'on va, d'où l'on vient. Le doute, on ne sait pas. Et aux heures de crise de la vie, on se croit abandonné. On se croit seul. Jérémie, quel homme formidable de la Bible, le prophète Jérémie, un jour il était tellement fatigué, il ne comprenait pas toujours très bien tout ce qui se passait à son époque, et il a fait une prière à Dieu étonnante, comme quoi c'est pas toujours facile de croire quand tout va mal. Et à son époque, tout allait mal. Et il a dit, « Es-tu pour nous une eau dont on n'est pas sûr ?» Vous avez eu de l'eau dans une bouteille qui est là depuis 3 semaines. La bouteille est entamée. L'eau, est-ce que je la bois, est-ce que je ne la bois pas ? C'est une eau qui est peut-être polluée, qui a vieilli, qui est peut-être amère. On ne sait pas, on doute. Et Jérémie dit à Dieu, « Est-ce que tu es une eau, une source dont on n'est pas sûr ?» Oh, quelle prière ! Comme quoi, les paroles de la Bible nous rejoignent parfois dans nos moments de doute. Mais soyons sincères avec Dieu, comme Jean-Baptiste. Disons à Dieu simplement, « Seigneur, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je t'ai perdu de vue. J'ai appris mon catéchisme, j'ai lu quelques livres sur l'Évangile, puis là, je ne sais plus où je vais, je ne sais plus ce qu'il faut croire, je ne sais plus comment faire. » Disons-lui, es-tu celui qui doit venir ? Es-tu le Christ qui guérissait autrefois ? Guéris-tu encore ? Es-tu toujours avec nous ? Est-ce que c'est la vérité ? Dites-lui, vous l'avez perdu. Comme Marie et Joseph qui revenaient de Jérusalem et qui, tout à coup, ils se sont rendus compte que l'enfant Jésus, il avait 12 ans, il était tout petit. Et puis, il n'était pas là. Et puis, ils l'ont cherché. Où était-il ? Il était resté à Jérusalem. Dangereux, hein ? On perd un enfant comme ça, sur le bord de la route. Et puis ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Nous te cherchions avec angoisse. Ouvrons notre cœur au Seigneur en lui disant peut-être, mais on entend parler de l'Évangile dans certaines églises, mais qui es-tu? Et si nous le recherchons, si nous lui disons, es-tu celui qui doit vraiment me secourir, me guérir, me relever? Je crois que vous découvrirez une chose magnifique, c'est que c'est lui qui vous cherchait. Vous, vous étiez là, tâtonnant, cherchant, lui vous cherchait. Et il vous attendait. Jean-Baptiste, il a reçu un message de Jésus, en lettre commandée presque, et Jésus lui a dit, tu diras à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. Autrement dit, le royaume de Dieu, le roi de l'univers est sur la terre. Il fait quelque chose. Il répare l'humanité, les couples cassés, couples tordus. Tout ce qui se teurt, il redresse, il met en marche, il remet en marche. Et Jean-Baptiste a cru, sans voir Jésus. Il ne reverra jamais Jésus, mais il a cru. Es-tu celui qui doit venir? Prière. Première prière, reste avec nous Seigneur, le soir décline. Troisième prière, on ne va pas charger trop de l'église de prière aujourd'hui. Écoutez bien, j'ai crié et tu as entendu ma voix, tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Qui a pu prier comme ça? C'est Jonas. Vous connaissez Jonas? Jonas qui a été par sa... Cet homme, ce prophète, par sa désobéissance, il a été jeté dans la mer, dans l'obscurité. Il le dit jusqu'aux racines de la terre. Il exagère un peu peut-être parce que les racines de la terre, c'est à 10 000 mètres dessous. Et déjà, quand on... Comme, je ne sais plus son prénom, Guillaume Néry, quand il descend à 135 mètres en apnée... Il est au bord de la mort, là, 135 mètres. Et Jonas est descendu dans l'obscurité. Quand on, parce qu'il s'était éloigné de Dieu, ça veut dire pour nous, quand on commence à s'éloigner de Dieu, on ne sait plus jusqu'où on va aller. On ne sait plus jusqu'où notre dépression va aller, notre désespoir va aller. On a perdu le contact avec la vie. La vie fait naufrage. On est submergé comme Jonas. Il descend dans l'eau, il descend. Submergé par les soucis, bousculé comme par les vagues qui passent toujours. Il est asphyxié. Tout nous abandonne. Imaginez Jonas. J'ai failli me noyer une fois, deux fois. Et j'imagine Jonas, moi c'était avec 40 cm d'eau. Et lui, c'était des dizaines de mètres. Il est enveloppé par les algues, enveloppé par les roseaux. Il est prisonnier, il est retenu dans les algues. Il pourrait se révolter, il pourrait dire, « Seigneur, tu m'abandonnes. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, je n'ai pas mérité ça. » Mais au lieu de se révolter, il se souvient de Dieu et il appelle Dieu au secours. Il ne peut pas parler, il descend dans l'eau, mais son cœur parle et crie, et son cœur, sa prière, va jusqu'au temple de Dieu dans le ciel. Qu'on soit très loin, très bas, très mal, dans l'agonie, presque dans la mort, quand on parle à Dieu intérieurement, notre prière arrive jusque dans le saint temple de Dieu qui est tout là-haut. Et quand il a commencé à prier, c'est comme si Jonas, c'est comme s'il donnait un coup de pied en bas, au fond de la mer, et qu'il remonte. Vous avez besoin de donner un coup de pied pour remonter. Vous avez besoin de dire comme Jonas, je me suis souvenu du Seigneur quand les roseaux entouraient ma tête et que je descendais jusqu'aux racines de la terre. je descendais dans la mort. » Et il remonte. Sa prière lui permet de saisir la main de Dieu. Dieu n'est contre personne, il n'abandonne personne, il ne ferme sa porte à personne. Et quand on crie à lui, il nous tend la main. Sa prière lui permet de saisir la main de Dieu et le voilà qu'il remonte. Souvent, les gens, quand ils sont malades, ils me disent à un certain moment, je remonte. Et moi, je leur dis souvent, est-ce que vous sentez que ça remonte? Vous voyez le mot, le verbe remonter. Parfois même, on m'a dit, voulez-vous un petit remontant? Remonter. Ça dépend ce qu'on entend par remontant. Et là, on trouve Dieu, on est encore loin, mais on monte et on trouve le sens de la vie. On va vers la hauteur. Le sens de la vie, c'est aller vers la hauteur. Pas descendre, monter. Mais je ne sais pas si vous avez essayé déjà, on a tous essayé un peu quand même, pour histoire de taquiner un peu, quoi. Certains essaient de remonter tout seuls. Ils sont forts, hein. Pas beaucoup de kilomètres, je peux vous le dire. Impossible de remonter par nos forces. Notre élan ne peut pas nous amener dans une libération. Il y a des rochers à sauter qui sont beaucoup trop hauts pour nous. J'aime beaucoup cette parole du psaume 62, du bout de la terre. Je suis sans force. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux pas atteindre. Je voudrais être là-haut, je ne peux pas monter. C'est comme un mauvais rêve, vous savez. Parfois, on fait des rêves, on a l'impression qu'il faut monter, mais on ne peut pas monter. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux pas atteindre. Dans la vie, c'est comme ça, il faut l'accepter, on ne peut pas tout. Il ne faut pas casser la maison pour ça, il ne faut pas aller se jeter à l'eau pour ça. Dans la vie, on ne peut pas tout. On a besoin de Dieu, qui, lui, est capable de nous faire monter. Même un jour, il nous fera monter, vous savez où? Jusqu'à chez lui, dans la maison, là-haut, au son de la trompette de Dieu. Ainsi, quand nous prions, nous tendons les bras vers Dieu. Comme l'enfant, quand il va mal, il tend les bras vers son père. Et quand on prie, on tend nos bras vers Dieu. Et Dieu tend ses bras vers nous. Et il a pris Jonas par les bras. Et il l'a remonté. Et vous savez la suite, hein? Un poisson est venu, probablement un cachalot. Et il a pris Jonas pour le mettre hors de danger. Et le ramener chez lui, tranquillement. Gratuitement. Même un 2 mai, il y avait le poisson. Un 1er mai, le poisson était là. Le bus n'est pas là, mais le poisson était là. L'apôtre Paul dit, « Je puis tout, je peux tout par le Seigneur qui me donne sa force. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Je crois dans la présence agissante de Dieu dans les détresses, quand on est plongé dans le désespoir, qu'on n'a plus personne qui... Il n'y a pas d'écho. On frappe au mur comme les emmurés dans les mines de fond qui sont dans les coups de grisou. On frappe et personne ne répond. Mais je crois que tout là-haut, Dieu entend tous les coups qu'on met sur les parois qui ne répondent jamais, sur les portes qui ne répondent jamais. Ma prière est parvenue jusqu'au Seigneur de l'univers. Amen. Alors cette prière, j'ai crié et tu as entendu ma voix et tu m'as fait remonter de la fosse, tu m'as fait remonter de ma détresse, de ma solitude, de mon déchirement. Enfin, je vais terminer avec une dernière prière. C'est la prière d'un roi de la Bible, Ézéchias. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 38, vous l'écoutez seulement. « Je sens le fil de ma vie coupé par un tisserand. Mes grands-parents étaient tisserands. On habitait auprès d'un tissage. Et il fallait couper le fil. Je sens le fil de ma vie coupé par un tisserand. Je gémis comme la colombe. Je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Et quelques instants plus tard, la réponse, il y a des réponses. Dieu dit à cet homme, « J'ai entendu ta prière, voici, je te guérirai. » Ézéchias, il a 39 ans. Il a 39 ans et puis il est malade. Et voilà que Dieu lui dit par le prophète Ésaïe, « Prépare ta maison, prépare tes bagages, prépare tes papiers, tu vas mourir. » C'est terrible. Quand un médecin vous dit, « Monsieur, il n'y a plus d'espoir, il faut vous attendre au pire. » En général, ils ne disent pas ça comme ça. On va encore faire quelque chose, mais... Dieu dit à Ézéchias, « Prépare ta maison, prépare tes affaires, tu vas mourir. » Ézéchias, plongé dans la détresse. Pas vous ? Il pleure. Il prie. Il est brisé. 39 ans. On m'aurait dit ça, on me dirait ça aujourd'hui encore. J'aurais un coup terrible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, ben c'est comme ça. Fataliste, on n'a rien à faire. Le Seigneur nous a dit, le mal, la mort, les misères de la terre, c'est un ennemi qui a fait ça. C'est un ennemi. Et Jésus dit, vous devez prier. Je ne dis pas qu'on ne mourra jamais, mais vous devez prier. Quand le diable est venu autour de Pierre, parce que le diable il attaque beaucoup les apôtres, les serviteurs de Dieu, tous, et puis Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Je n'ai pas dit, bon, bah, tant pis, Jésus n'a pas dit, bon, bah, c'est le diable, il fera ce qu'il voudra, on ne peut rien y faire, fatalisme, la fatalité. J'ai prié pour toi. Réagir. Quand Jésus il a vu cette femme qui était courbée depuis longtemps, qui était courbée, qui ne pouvait pas se redresser, il n'a pas dit, bon, bah, pauvre femme, bon, bah, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez y faire ? Fatalité. Il a dit, il faut sortir cette femme de cette chaîne. Voilà. Voilà comment il parle, Jésus. Priez. Quand l'apôtre Pierre est en prison, arrêté par... les grands prêtres et les principaux d'Israël, il est en prison. Ben, l'Église, elle ne dit pas, ben, tant pis, on en trouvera bien un autre. Tant pis, c'est comme ça, c'est la fatalité. Bon, n'y pensons plus, pouf, Pierre, c'est fini. Non, elle a dit, on va prier, cette nuit, on va prier pour que Pierre sorte de prison. Et pendant que l'Église prie, le Seigneur délivre l'apôtre Pierre de sa prison. La prière. Dieu a éloigné la mort d'Ézéchias. Ézéchias dira après un magnifique poème, un psaume, « C'est par tes bontés que je respire encore. » Nous ne comprenons pas toujours très bien où nous allons. Nos chemins parfois se ferment, on ne sait plus « Est-ce qu'il y a un passage ? Est-ce que je vais survivre ? Est-ce que je vais échapper ?» Parfois, on dit, je dis, comme le Seigneur à Gethsémané, non pas ma volonté, mais la tienne, que ta volonté se fasse. Ce n'est pas du tout de le dire, mais il faut vraiment le vivre, que ta volonté se fasse. Mais nous devons prier, comme le lépreux, qui était couvert de lèpre. C'est affreux. Ce n'est pas seulement un petit bout d'oreille qui commence, il était couvert de lèpre. Sa peau était farineuse. Hirsute, un homme, on détourne le regard de ces gens-là à l'époque. Et il a dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Que ta volonté s'accomplisse, si tu veux. Et le Seigneur a guéri cet homme-là. Il a guéri Ézéchias. Et il a délivré l'apôtre Pierre. La force du mal est grande sur la terre. Oui ou non ? C'est effrayant. Mais la force de Dieu est plus grande. Il n'y a qu'une seule chose qui est petite sur terre. C'est comme ça. C'est notre foi. Comme un petit grain, dit Jésus. Mais notre foi nous permet d'entrer dans une parole de Jésus. Tout est possible. Rien d'impossible à Dieu. Avec mon petit peu de foi, je m'accroche. Je croche cette prière à la force de Jésus. Tout est possible. Quand on montait jusqu'aux 15 mètres, on avait toujours un harnais quand on était un petit peu hors de l'échafaudage, évidemment. Et puis ce harnais avec un crochet, on le mettait sur une barre. On le mettait sur cet échafaudage qui faisait 2 ou 3 tonnes. Puis là, on ne pouvait pas du tout se détacher. Et je pense que notre foi, c'est un petit crochet qui s'accroche aux paroles éternelles et puissantes de Dieu. Amen. Je suis avec vous. Amen. Oui, tu m'as fait remonter de la fosse. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. Es-tu celui qui doit venir? Je sens le fil de ma vie coupé. Peut-être qu'on pourrait dire ça aujourd'hui. Tout ce que j'ai prévu, rien ne s'accomplit. Toutes mes prévisions sont tombées à l'eau. J'ai fait des bêtises. Je me suis coupé la branche sur laquelle j'étais assis. C'est malin. Et là, aujourd'hui, je ne remonte plus. Je suis terrassé. J'en prends mon parti. Mais Seigneur, ta bonté dure éternellement. Amen. On va prier le Seigneur ensemble. On va prendre ces prières et les faire monter vers Dieu. Et le Seigneur qui nous a donné l'autorisation, l'ordre, qui nous a donné l'ouverture pour la prière, ce n'est pas quelqu'un de tyrannique, de menteur, de faux, c'est quelqu'un de vrai, et plus, qui nous aime. Alors, avec ça, je vais prier le Seigneur pour vous. Amen. Prions le Seigneur ensemble. Nous suivons les disciples d'Emmaüs. Nous suivons Jonas dans la descente au fond de la mer. Nous suivons Ézéchias qui pleure sa santé perdue. Nous suivons tous ces hommes qui ont crié à toi un jour dans leur vie parce qu'ils sentaient autour d'eux tout vaciller. Et nous voulons même suivre Jean-Baptiste dans son doute. Es-tu celui qui doit venir ? À toutes ces prières, même de doute, tu as répondu. Tu as été attentif. Tu as entendu et tu as répondu. Nous te demandons, Seigneur, du secours pour aujourd'hui. Du secours dans nos troubles. Du secours pour que notre vie soit meilleure, que notre caractère soit changé, que notre vision de la vie soit plus juste, plus vraie, que nos enfants soient ramenés dans le vrai chemin, que nos familles soient protégées. Nous te demandons que nos fautes soient effacées, que nos vies soient en accord avec Dieu. Et nous refaisons la prière du publicain. Sois apaisé envers moi. Fais la paix avec moi. Ne sois pas en colère après moi. Pardonne-moi. Relève-moi. Au nom de Jésus. Amen.